Pour traverser au mieux votre deuxième printemps, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai deux programmes en ligne à suivre en toute autonomie. Un premier qui va venir vraiment vous soutenir dans votre équilibre hormonal et qui passe en revue tous les piliers de soutien de la ménopause et de votre être dans sa globalité. Et le deuxième programme qui s'appelle « Bye bye les inconforts de la ménopause ». Vous avez envie d'en savoir plus ? Retrouvez toutes les informations sur mon site Pascaline Limbroso. Bonjour et bienvenue au Cœur de la Femme, le podcast pour traverser la périménopause avec joie. Je m'appelle Pascaline, je suis naturopathe et praticienne de Shiatsu et ma mission est d'apporter un regard neuf et curieux sur notre nature cyclique afin de redonner aux femmes leur plein potentiel. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous invite à le partager autour de vous. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car je reçois une invitée. Astrid Le Fur, experte du burn-out. J'ai trouvé très intéressant de la faire venir sur mon podcast, tout simplement parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui traversent la périménopause, qui arrivent à la ménopause et qui sont extrêmement épuisées, voire en burn-out, et qui luttent encore contre cet état, qui ne veulent pas le reconnaître. Avec Astrid, nous allons décortiquer comment reconnaître le burn-out.
Bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent. Donc, je suis Astrid Le Fur, je suis coach professionnelle, conférencière et l'auteur d'un livre, hop là, je vous demande qui est là, qui s'appelle « Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance ». Donc ce sujet qui est l'épuisement, c'est vraiment mon sujet de cœur. Et à la fois, j'accompagne les personnes qui s'épuisent, mais aussi les entreprises. C'est vraiment aussi quelque chose qui est important pour moi, d'accompagner les systèmes, les structures, ouais, à créer des environnements de travail où tout le monde peut s'épanouir sans s'épuiser.
Et on est bien d'accord, tout simplement parce que l'individu, il n'évolue pas tout seul comme ça, il évolue dans un environnement. Et pour la ménopause, c'est pareil. C'est pour ça que je disais que nos visions sont très proches, parce que la ménopause, elle n'arrive pas comme ça d'un seul coup sur quelqu'un, elle arrive chez la femme, dans son environnement, avec tout ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu. Astrid, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, si je puis dire. Comment toi, tu en es arriver à écrire ce livre?
Moi, je suis ingénieure de formation et a priori, rien ne me destinait à aborder ce sujet-là, si ce n'est qu'il s'est invité lui-même en 2016 dans ma vie et qu'à ce moment-là, j'ai constaté que je manquais beaucoup d'informations. J'avais beau chercher ou questionner même des professionnels de santé, l'information que j'obtenais soit n'était pas concordante avec mon vécu, soit était très lacunaire. Il y a des informations vraiment de base qu'on récolte, mais quand on veut aller plus loin pour savoir concrètement qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on doit faire pour aller mieux. Ça, c'était vraiment deux questions clés. Et je ne trouvais pas de réponse précise. Alors, peut-être que j'étais ingénieure et un peu trop carrée dans ma tête.
Ne te flagelle pas, s'il te plaît.
En tout cas, ce n'était pas assez précis pour moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au sujet, d'abord pour moi. J'ai fait des recherches scientifiques, c'était mon métier, donc je savais le faire. J'ai interviewé des personnes pour corréler ces recherches au vécu des personnes. Et à partir de là est né mon blog Partage ton burn-out quelques années plus tard parce que j'ai voulu, comme l'indique le titre, partager toutes ces informations au groupe. Ouais. Le livre, lui, il est né après le blog parce qu'une fois qu'il y a une centaine d'articles, ça devenait compliqué de se repérer, de savoir lequel lire en premier. Et donc, je répondais aux gens par des mails en disant « il y a tel article et tel article ». Et puis, je me dis « bon, là, c'est trop long. Le plus simple, c'est de faire un livre organisé, tout est dedans, avec vraiment l'intention qu'il soit facile à lire. Ouais. » Parce que ça, par contre, c'est un élément important.
Je l'ai feuilleté et c'est vrai qu'il est hyper intéressant. Et donc, moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, comme je reçois énormément de femmes qui sont épuisées, et souvent le mot burn-out n'est pas mis, je vois bien que l'épuisement, il est profond, que ça fait longtemps qu'elles traînent une fatigue. Et ce que j'observe aussi, c'est que finalement, beaucoup de personnes considèrent cet épuisement ou cette fatigue ou ce stress qui s'impose dans nos vies comme étant quelque chose de normal, comme s'il fallait absolument être sous cette emprise du stress pour pouvoir être efficace. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose par rapport à ça?
Oui, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que je pense qu'effectivement, il y a une pensée globale de notre société qui est que pour être quelqu'un d'important ou être utile au monde, c'est important d'avoir beaucoup de choses à faire. Et quelque part, le fait d'avoir un agenda plein, c'est plutôt valorisé socialement. Ça, c'est un des éléments de réponse. Ça concerne les hommes comme les femmes. Ouais. Et puis, en plus, pour les femmes, on a tendance à penser que, ah oh ben oui, c'est normal, avec tant d'enfants, plus une carrière, ben, c'est normal d'être épuisée. Sauf qu'en fait, non, il n'y a aucune raison qu'on se retrouve dans ce système-là qui, en plus, n'est pas durable. Donc, peut-être que sur un temps court, on trouve ça super, mais à long terme, ça ne marche pas.
Et donc, ce qui m'intéresserait, c'est quelles sont les pistes concrètes. Parce que donc moi, je vois des femmes qui sont très épuisées. Donc, l'épuisement, en plus, à la ménopause, entraîne des blocages métaboliques. Donc, par exemple, au niveau de la perte de poids, pour les personnes qui ont envie de perdre du poids, c'est comme si la ménopause venait amplifier tous les déséquilibres qui étaient déjà installés auparavant. Quels seraient, toi, les conseils que tu pourrais donner, justement, aux femmes pour eh bien, qu'elles repèrent peut-être, avant qu'elles n'arrivent au burn-out, qu'elles repèrent les indices qui viennent dire que bah, peut-être il serait temps de changer de système ou en tout cas d'améliorer des choses pour pouvoir être moins sous cette emprise-là des tensions, de la fatigue, de l'épuisement ou tout simplement de... Parfois, je sais qu'il y a aussi on se fixe à nous-mêmes un niveau d'exigence élevé que l'on considère comme normal. Hein. Je sais que nous sommes parfois notre propre... j'ai envie de dire notre propre bourreau. Donc, quels seraient tes conseils pour pouvoir... J'ai pas envie de dire prévenir parce que je sais pas si on peut prévenir le burn-out, mais en tout cas, aménager des moments pour détendre le système nerveux et puis accorder à cet épuisement des temps de repos, de relaxation. Je sais pas ce que toi tu en penses et ce que tu proposes.
Alors déjà, moi, ce que j'ai envie de répondre quand j'entends ta question, le premier conseil, ce serait de déminer la croyance que la ménopause est la cause de l'épuisement.
Mais j'arrête pas de déminer les croyances, mais tu as raison, ce n'est qu'un amplificateur.
Exactement, et c'est le mot que tu as utilisé, il est très juste parce que c'est tellement facile d'aller pointer des choses sur lesquelles on ne peut rien et qui donc ne nous apportent aucune solution. Et que ce soit vrai pour les femmes elles-mêmes qui se disent « Ah ben oui, c'est normal, je suis en changement hormonal, donc je ne supporte plus rien, je suis fatiguée ou je m'énerve vite. » Ou que ce soit de la part du regard des hommes qui vont se dire « Ah mais elle est hystérique, c'est normal, c'est à cause de sa ménopause. » Et qui au final, personne, ni la femme, ni la personne en face qui écoute, ne va écouter le message final qui est en fait la vraie clé. Donc ça, c'est la première chose, trouver les vraies causes de l'épuisement ou de l'irritabilité. Parce que dans l'épuisement, en fait, il y a les deux. Hein. Il y a à la fois la fatigue, mais il y a aussi l'irritabilité qui est liée à l'épuisement que l'on a. Ouais. On supporte moins bien les relations et donc on s'énerve plus vite.
Ouais, ouais.
Donc, trouver les vraies causes et pas s'attacher qu'à ce qui est lié à l'environnement auquel on ne peut rien, mais à s'attacher à ce sur quoi on peut agir. Donc, le premier élément, identifier les causes. Et le deuxième, c'est chercher des solutions à ces causes-là. Ça, c'est vraiment important parce que on peut avoir tout un tas de techniques pour gérer ses émotions. J'ai horreur de ce mot-là.
Pareil que toi.
Voilà, pour avaler la pilule. C'est un peu ce qui serait demandé avec gérer ses émotions.
Tout à fait.
Alors qu'on peut considérer que notre fatigue ou notre irritabilité, c'est en fait un signe qu'il y a des choses de fond à changer. Et c'est ça qui va vraiment changer notre état et le fait qu'on soit épuisé ou au contraire épanoui. Donc ça, c'est la chose, je pense, la plus importante. Oui. La deuxième, je l'ai entendue aussi dans ta question, donc je pense que tu seras OK avec ça, c'est de prendre ou de reprendre l'habitude de prendre soin de soi au quotidien.
Donc, d'ailleurs, c'est le sujet de ma ménopause, le sujet de ma masterclass de vendredi, prendre soin de sa ménopause au quotidien.
Exactement.
Et c'est tellement important.
Voilà, et on a en général complètement oublié, on s'est déshabitué ou on n'a jamais appris parfois à se mettre au cœur de son agenda et à trouver des espaces pour soi. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, si tu proposes une masterclass, je vous en prie, allez-y, allez voir comment faire pour prendre soin de soi, mais que vous soyez d'ailleurs en ménopause ou même avant. Parce que finalement, ces bonnes habitudes, elles se prennent et si on les a déjà, c'est plus facile au moment où notre environnement hormonal se déstabilise.
Tout à fait.
C'est le deuxième point. Prendre soin de soi, donc identifier et agir sur les causes, et deux, prendre soin de soi au quotidien et pas quand on est épuisé. Quand on est épuisé, c'est déjà trop tard. Donc, on se met des pauses régulière. Alors, une pause, ce n'est pas forcément ne rien faire, mais c'est faire quelque chose qui nous fait du bien. Marcher en nature, faire du yoga, lire un livre, tout simplement, voir des amis, rigoler. Mais c'est des choses où on se dit, ben, l'intention, c'est que à l'issue, je me sente mieux. Soit je me suis fait plaisir, soit je suis fière de moi parce que j'ai produit quelque chose ou j'ai vécu quelque chose qui m'a fait du bien.
J'aime beaucoup ce que tu partages là et ça me touche beaucoup parce que c'est aussi ce que je partage en séance auprès de ces femmes qui sont fatiguées. C'est que, et d'ailleurs, j'ai envie de dire fatiguées ou pas, ça peut être aussi pour l'alimentation, c'est que n'attendons pas d'être arrivés à un point extrême pour mettre des choses en place et dans notre quotidien, n'attendons pas de nous sentir anxieuses ou à bout pour prendre un temps de repos. Et ça, c'est très important parce que si on fait des choses qui nous font du bien, donc tu mentionnais le yoga, une balade en nature, moi j'aime beaucoup aussi le rapport au beau. C'est-à-dire regarder quelque chose que nous trouvons beau, ça peut être de feuilleter un magazine d'art par exemple, ou il y a plein de magazines, bon, je ne vais pas faire de pub, mais par exemple le magazine Flow, je trouve que, moi je l'achète juste pour les images en fait, je trouve qu'il est très beau. Donc se connecter aussi au beau qui permet un peu au cerveau de s'évader, au système nerveux de faire une pause, et de ne pas attendre ce temps où on va être complètement sous pression, où les épaules vont nous servir de boucle d'oreille et où on va avoir la mâchoire tellement serrée pour faire quelque chose. Parce que dans ces cas-là, en fait, le corps, d'ailleurs, ça va être très énervant de se dire, tiens, il faut que je fasse du yoga ou je dois respirer ou je ne sais quoi. Et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que oui. Moi, ce que j'ai observé, c'est que plus on entraîne notre corps dans des moments de répit, dans des moments où nous allons bien, plus nous l'entraînons en lui enseignant les bonnes habitudes à prendre. Donc, moi, je sais que je transmets beaucoup de respiration, d'étirement, de mouvement du corps, et à faire de manière régulière et ne pas attendre que le moment fatidique soit là. Eh bien, ça permet au corps aussi d'enregistrer ce qui lui fait du bien et d'avoir une sorte d'automatisme quand, par exemple, on est submergé par quelque chose, qu'il prenne le relais. Moi, c'est ce que j'ai observé de ma pratique, et je l'ai observé notamment par la respiration. Bon, moi, je pratique des techniques de respiration depuis plus de 30 ans, puisque j'ai commencé la sophrologie à l'âge de 18 ans. Donc, bien plus de 30 ans, parce que j'ai dépassé les 48 depuis quelques années déjà. Et en fait, quand je suis en apnée, c'est pas moi, je fais pas un point en disant « Tiens, où est-ce que j'en suis ?» C'est d'un seul coup, il y a une inspire qui vient, qui arrive, et mon corps fait « Non mais attends, en fait, regarde là ce qui se passe, quoi. » Donc je trouve très intéressant ce que tu mentionnes et qui rejoint aussi ce que je propose, qui est de ne pas attendre les moments de stress important ou d'épuisement important pour faire quelque chose pour soi. Je trouve ça très intéressant.
C'est ça, et dans ce que tu dis, effectivement, c'est ce que les gens voient. Plus on a l'habitude de pratiquer certains exercices ou d'inclure des moments de pause pour soi, plus ça devient naturel et facile. Et donc, développer tout un tas d'outils, puisque chacun va avoir ceux qui lui correspondent, développer tout un tas d'outils qu'on peut utiliser au quotidien et qui seront d'autant plus présents le jour où il se passe quelque chose dans notre environnement et on est en état de stress ou autre, eh bien, c'est quelque chose d'important. Et c'est quand on va bien qu'on a l'énergie qui permet d'implémenter tous ces outils-là. Oui. Donc, tu parles de la respiration, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Il y a tout ce qui va être lié aussi au mouvement du corps, être connecté aux sensations du corps et le mettre en mouvement. Donc, quels que soient les outils, hein, yoga, pilates, marche, danse aussi, les danses intuitives, ça permet de se sentir bien. Et puis souvent, moi, ce que je propose aux personnes, c'est de s'inscrire dans des rituels, donc des choses qui sont créées exprès pour soi et qui reviennent régulièrement, qui fait que cette habitude se crée. D'ailleurs, sur mon blog, il y a un challenge qui s'appelle 21 jours pour prendre soin de soi.
Ah, c'est
justement
chouette, ça.
Voilà, je propose aux personnes pendant 21 jours, jour après jour, de créer ces rituels-là, de façon après à en avoir l'habitude.
C'est ça. Et parce que effectivement, c'est ce qu'on va mettre en place au quotidien. Moi, c'est ce que j'ai validé là depuis toutes ces années où j'ai préparé ma ménopause, que ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que je vais mettre en place pour moi au quotidien. Et ça peut être des toutes petites choses. Mais une fois qu'une chose fait partie finalement de l'habitude, c'est d'en intégrer une autre. Et ce challenge très intéressant, on mettra le lien aussi sous la vidéo parce que même si je trouve que notre société regorge d'outils pour prendre soin de soi. Je trouve que parfois, c'est un peu mis dans l'espace de il faut se rajouter quelque chose à faire. Alors que là, c'est plutôt de se rajouter quelque chose en moins, c'est-à-dire de comprendre que lorsque je mets quelque chose en place pour moi, c'est tout le reste de la journée qui va en bénéficier. C'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps qui va être gagné. Alors, ce que j'observe aussi, et là, j'aimerais bien ton avis d'experte du burn-out, c'est que lorsque les femmes qui arrivent à mon cabinet sont très épuisées, elles ont parfois pas du tout l'énergie de mettre en place quoi que ce soit, pas l'énergie de changer, parce que ça demanderait un effort supplémentaire qu'elles ne sont pas en mesure de réaliser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être soutenant dans ces cas-là, de leur proposer ?
Ce que j'explique dans mon livre « Les 7 étapes du burn-out », c'est qu'à un moment, c'est ce que j'appelle la phase de décompensation, le corps n'est plus capable de rien. Donc là, le maître mot, c'est lâcher prise et accepter. Donc, parfois, on en est arrivé à un tel point d'épuisement qu'il n'y a même pas l'énergie de se faire plaisir, de respirer régulièrement ou autre. Et dans ce cas-là, c'est qu'on en est dans l'étape du lâcher prise et de l'acceptation que oui, c'est pas facile, oui, on traverse une phase compliquée. Donc, clairement, hein, si on n'en est même plus capable de juste prendre soin de soi, c'est qu'on a été très loin. Donc, c'est important d'en prendre conscience et de se dire, ben, mon seul projet, l'unique projet prioritaire, c'est de m'occuper de moi là maintenant. Et au départ, il y a une phase qui peut durer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, suivant à quel point on a épuisé son corps, où le repos est le seul outil que l'on a.
C'est ça.
Une fois, et on peut parfois avoir besoin d'une aide médicamenteuse. Donc, c'est important aussi de le considérer.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Mais parfois, pour remonter, on a, par exemple, si on ne dort plus, ben, on a parfois besoin d'aide pour dormir, ou si on a des angoisses qui sont très importantes. Donc, le médecin ou le psychiatre sont là aussi si on en a besoin. Donc, ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes, quand on n'a pas levé, quand on ne s'est pas sorti du cercle vicieux avant. Et une fois qu'on a récupéré un peu d'énergie, c'est là qu'est la phase que j'appelle de récupération, ou prendre soin de soi, et le maître mot. Et donc, c'est là que, par exemple, aller voir un naturopathe, un sophrologue, a de l'espace, parce qu'on a retrouvé au moins un tout petit peu d'énergie pour pouvoir se mettre en avant. Par contre, pour y arriver, il faut enlever tous les stress qui sont liés au travail ou à la situation qui nous a mis dans cet état. Elle peut être familiale aussi. Et donc, se concentrer uniquement sur ce reprendre soin de soi. Parce que si à côté, je me dis, je vais préparer mon retour au travail, etc., eh bien, hop, on replonge dans une spirale de stress et on n'a même plus l'énergie de nouveau pour suivre les recommandations des différents thérapeutes qui nous accompagnent.
Ouais. On comprend bien là, dans ce que tu expliques, que c'est un cercle vicieux dans lequel on entre, c'est-à-dire il y a de l'épuisement et en même temps on veut pas lâcher, nous continuons à nous donner à fond et puis en tant que femme, je pense que nous avons aussi cette capacité assez facilement à nous déployer, à nous démultiplier. Qu'après la journée de travail, ben non, ça n'est toujours pas terminé. Même si il y a des évolutions hein, dans la répartition des tâches si on vit en couple, mais il faut bien avouer que dès lors que nous avons aussi des enfants, ben, très souvent, la femme, la maman est très sollicitée, sur-sollicitée avec toutes ses casquettes. Et moi, ce que je vois vraiment, c'est que il y a même des femmes, j'ai quelqu'un là en tête dans les personnes que je reçois, qui sont tellement aussi accrochées à cet état-là, comme étant un état qui, je ne sais même pas s'il y a de l'adrénaline qui est sécrétée encore quand tu es trop épuisée.
Non.
Je ne crois pas.
Au bout d'un moment, les hormones sont complètement
C'est ça. Mais elle n'arrête pas de me dire, j'espère que je ne suis pas en burn-out. J'espère que je ne suis pas en burn-out. Et donc, elle travaille, elle a des enfants, elle a une famille, elle travaille beaucoup, elle travaille la nuit, elle peut se coucher à 4 heures du mat. Et en fait, je la regarde et je me dis, mais quand est-ce qu'elle, jusqu'où? Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'effondrer, ce que je ne lui souhaite pas, mais c'est jusqu'où le corps... Non, c'est alors jusqu'où le corps est capable de tenir. Et surtout, jusqu'où nous ne sommes pas capables d'écouter les signaux que le corps nous envoie.
Donc, ce que tu mentionnes là, c'est caractéristique des personnes en burn-out. Ce sont des personnes... Donc, le burn-out, c'est une maladie du déni.
Ouais.
La personne... Donc, ça, c'est symptomatique. La personne qui ne voit pas qu'elle est dans un cercle vicieux et qu'il n'y a pas d'autre issue que l'épuisement si elle ne change rien à ce qui se passe. Donc, quand on voit un proche qui est comme ça, eh bien, ça ne fait que confirmer le fait que la spirale de l'épuisement est déjà
est déjà là. Eh oui.
Donc, qu'est-ce qui fait que les choses s'arrêtent à un moment? C'est qu'il y a quelque chose qui permet la prise de... Alors, soit il y a quelque chose qui permet la prise de conscience. Donc, ça peut être une discussion que vous avez ensemble. Et par exemple, tu peux l'aider en lui posant des questions pour qu'elle réalise, quand la personne verbalise elle-même tout ce qui dysfonctionne, ça l'aide à prendre conscience. Donc, ça peut être ça. Et parfois, quand rien n'est fait, c'est le corps qui, à un moment, tire la sonnette d'alarme. Et c'est ça, la chute du burn-out, c'est le moment où le corps dit, bon ben, puisque le cerveau ne m'écoute pas, pour survivre, parce qu'au bout de l'histoire, s'il n'y avait pas d'action d'arrêt,
corps,
eh bien c'est la mort.
Voilà. Ah oui.
Donc le corps trouve un moyen de s'arrêter. Donc souvent, c'est un moyen psychosomatique, ça peut être un accident, ça peut être quelque chose d'émotionnel, la personne se met à pleurer ou se trouve tétanisée, ne peut pas rentrer dans son métro pour aller au travail. Mais il y a quelque chose qui se passe, qui sert en fait de protecteur pour éviter que ça aille trop loin.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet des prises de conscience qui transforment votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes activités. Belle continuation et portez-vous bien.